autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver en direct, chers amis auditrices et auditeurs, autour de notre première table ronde de l'année avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus comme chaque mois, vous le savez, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. En commençant, excusez du peu, par percer le plus grand des mystères, le miracle de la vie. Comment un spermatozoïde et un ovule se reconnaissent, s'approchent et fusionnent pour donner la vie. Fiorenza Gracchi, dans Epsilon, partagera les découvertes simultanées de deux équipes de recherche. Nous nous interrogerons ensuite sur les chromosomes X et Y, pourquoi femmes et hommes ne sont pas égaux devant les maladies. Réponse d'Edith Hurd, pionnière de l'épigénétique, médaille d'or du CNRS à la une et dans le dossier de ce numéro de janvier de Pour la Science, que nous fera partager François Lassagne. Nous nous arrêterons ensuite sur un écosystème fondamental sur lequel repose toute la vie terrestre, les sols. Comment préserver et soigner nos sols, dossier à creuser dans la recherche avec Philippe Pajot. Mais au fait, comment l'eau est-elle venue sur la Terre ? Une nouvelle théorie émerge, comme nous l'expliquera Benoît Tonson de la revue en ligne The Conversation, avant de mettre le cap sur Uranus, carrément, la septième et avant-dernière planète du système solaire à 2,8 milliards de kilomètres de la Terre et dans le viseur de la NASA qui projette d'y envoyer une sonde. Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace, nous en dira plus sur cette folle mission Uranus Orbiter autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» Bienvenue sur Terre et sur les bonnes ondes de RFI. Comment la science, comment la recherche vont-elles infuser en 2025 ? Qu'attendez-vous ? Qu'espérez-vous de cette année ? Je me tourne vers vous, Fiorenza Gracchi, pour Epsilon.
Oui, on en avait parlé dans cette même émission il y a un an environ, les GLP-1, les nouveaux médicaments contre l'obésité qui permettent de perdre facilement beaucoup de poids de petites injections sous la peau du ventre. Donc on les connaît sous le nom de Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Et cette année, ils vont être rejoints par de nouvelles molécules, probablement plus puissantes, qui vont terminer les essais cliniques ou arriver sur le marché, et qui ont une double ou triple action et pourraient être encore plus efficaces pour traiter l'obésité et le diabète. Et aussi, ça va aussi être l'année où on va voir si les promesses des labos pharmaceutiques se réalisent, de pouvoir traiter avec ces molécules qu'ils appellent miraculeuses, d'autres pathologies a priori sans rapport, comme l'hypertension, là il commence à y avoir des données, mais aussi l'addiction à l'alcool, l'Alzheimer, le Parkinson, donc on va suivre ça de près.
Donc on attend beaucoup de ces thérapies. François Lassagne, qu'est-ce que vous attendez, vous, dans Pour la Science pour cette année 2025 ?
Alors je vais faire une sorte de pari peut-être, c'est que je fais le pari que toute l'excitation qu'il y a autour de l'IA générative va s'amoindrir un peu. On va se rendre compte sans doute que des promesses incroyables que toutes les entreprises qui proposent de l'IA générative font en ce moment ne sont pas tenues ou mal tenues. Et je vais prendre un seul exemple pour illustrer ça. C'est que, alors, il y a eu des centaines de millions de dollars investis notamment dans la robotique humanoïde, avec un prétexte, c'est grâce au réseau de neurones profonds, grâce à l'IA générative, les robots vont apprendre autrement. On va enfin réussir à avoir des robots qui apprennent vite et qui apprennent à faire plein de trucs nouveaux. Donc bientôt, vous aurez des robots à la maison pour vous aider. Ok. Il se trouve que la plupart des startups qui font des robots humanoïdes, je vais laisser de côté ceux de Tesla, qui sont animés par des opérateurs. En fait, ils font un peu tous ça. Ils ont tous en vue le fait qu'il y ait des opérateurs humains derrière. Prosper, qui est une startup qui a levé beaucoup d'argent aux États-Unis, a annoncé par le biais de son fondateur que au moins pendant la première version de son robot qui sera commercialisé, 80% des tâches seront réalisées en téléopération. C'est-à-dire qu'il y a 20% qui sont, grâce aux algorithmes, jouables par la machine toute seule. Et puis 80%, en fait, il y a des gens aux Philippines qui ont un œil sur les capteurs du robot, un œil sur le prompt des utilisateurs et qui vont faire de la commande à distance.
C'est des petites mains derrière.
Au moins dans un premier temps. Et puis, allez, je fais le pari que ça va durer longtemps, en fait, parce que les vrais problèmes de fond d'avoir du bon sens physique et mécanique dans un environnement complexe, c'est pas du tout résolu. Il y a encore énormément de travaux. Il y a plein de chercheurs qui pensent que c'est très loin, vraiment très loin. Donc on en reparlera. Il y aura peut-être des avancées, mais je peux prendre le pari sans trop de risques. En 2025, il n'y aura pas de robots à la maison.
Il n'y aura pas de robots à la maison et un peu moins de hype IA ou intelligence artificielle. Philippe Pajot, vous attendez quoi dans la recherche pour 2025 ?
Vous connaissez mon amour de l'astrophysique. Oui. Et voilà, et je J'attends beaucoup d'une campagne d'observation qui s'appelle la campagne O4. Alors, ce nom un peu bizarre, en fait, c'est une campagne qui consiste à observer, à détecter des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des frémissements de l'espace-temps qui émanent de fusion de trous noirs qui se produisent extrêmement loin, de manière très lointaine. Donc ça, vous savez que depuis 2015, maintenant...
On les a détectés.
Et là, cette campagne d'observation, avec des instruments extrêmement sensibles, qui sont LIGO aux États-Unis, Virgo en France et Kagra au Japon, maintenant, on commence à en détecter beaucoup. C'est-à-dire, tous les deux, trois jours, on détecte une fusion
de trous noirs
qui donnent ces frémissements qu'on détecte. Et peut-être que ça pourra... Ça va sûrement améliorer nos connaissances de ces objets compacts, des trous noirs et aussi des étoiles à neutrons.
Et ouvrir une nouvelle fenêtre, en fait.
Ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers, voilà, pour l'astrophysique. Donc vraiment, c'est un domaine qui est en train d'exploser et je trouve ça absolument fabuleux.
Ondes gravitationnelles, espace, Philippe Hénarejos, s'il y a l'espace, qu'est-ce que vous vous attendez dans l'espace pour 2025?
Moi, je vais faire un vœu, c'est qu'enfin, on arrive à résoudre, du côté des cosmologistes, ce qu'on appelle la tension de Hubble, qui est, vous savez, c'est la mesure du taux d'expansion de l'univers. Et selon qu'on le mesure avec une méthode ou avec une autre, avec le fond diffus cosmologique ou les supernovas lointaines, eh bien, invariablement, on trouve une différence qui ne se résout pas et qui continue à s'accroître. Alors, elle n'est pas énorme, c'est entre 67 km secondes par méga par 7, par sec, ou 73. Vous voyez, ça fait 6 km à l'heure de différence, mais c'est extrêmement important pour les paramètres cosmologiques, pour le destin de l'univers, peut-être pour des choses comme la matière noire et l'énergie sombre. Alors, si on arrivait enfin à trouver qu'est-ce qui cloche entre ces deux méthodes qui sont toutes les deux très précises et qui sont toutes les deux très solides, mais qui donnent des résultats invariablement différents, ça serait peut-être un grand pas, ça serait pas mal en 2025, d'autant qu'il y a des satellites comme Euclide qui marchent déjà et qui sont cosmologiques. Il y a des grands surveys du ciel qui sont faits notamment à Kitt Peak, le surveil DAISY qui a déjà commencé à donner des premiers résultats. Peut-être qu'il y aura de nouveaux résultats en 2025. Et peut-être qu'à force d'observer, on va résoudre ce problème quand même.
On peut l'espérer pour 2025. En attendant, et pour commencer, cette année 2025 justement, si on remontait au commencement, précisément, au tout début de la vie, même carrément à l'instant T, quand un spermatozoïde rencontre un ovule, on a percé le miracle de la vie. C'est le titre de votre article dans Epsilon sur Enza Grassi. Explication juste après avoir écouté Life. Bah oui, la vie, c'est le titre de ce morceau réjouissant du sound system. Voilà sur RFI. We'll be right back. Life, la vie en version groovy par le Sound System, voilà, sur RFI, autour de la question comment des scientifiques viennent de percer, alors évidemment c'est un peu exagéré, un peu une plaisanterie, le miracle de la vie, ou plus exactement de la rencontre féconde entre un spermatozoïde et un ovule. Vous avez mené l'enquête, Fiorenza Grazzi, dans Epsilon, parce qu'il y a deux groupes de scientifiques qui, au fond, à peu près en même temps, ont percé ce fameux mystère et ce miracle, hein, avec tous les guillemets qu'il faut.
Oui, ça peut paraître incroyable qu'on ne connaisse pas la façon dont la vie s'origine, ce moment qui est presque iconique de la biologie, la rencontre du spermatozoïde et l'ovule, qui donne naissance à un être unique. Et pourtant, malgré le fait qu'il ait été photographié sous toutes les lumières, imprimé sur tous les manuels, qu'on sache le reproduire en laboratoire depuis 40 ans, hein, quand on fait des FIV, la fécondation, les fécondations in vitro pour traiter l'infertilité, il est largement mystérieux. Très peu d'équipes de recherche travaillent sur le sujet. Les chercheurs que j'ai eus m'ont dit c'est un territoire pas cartographié du tout, largement inexploré, et on ne sait pas comment le spermatozoïde et l'ovule se reconnaissent, s'accrochent et fusionnent. Donc, avant ces deux nouvelles études, ce qu'on savait depuis 10 ans, c'est qu'il y a deux protéines, l'une du côté du spermatozoïde et l'une du côté de l'ovule, qui se lient. Ça avait été découvert à Cambridge et au Japon. Elle s'appelle Juno côté ovule, évidemment, la déesse de la fertilité romaine. Et Izumo 1, c'est très joli aussi, c'est disons le sanctuaire du mariage japonais.
Mais pour la protéine,
pour la protéine côté spermatozoïde. Le problème, c'est qu'en parallèle, on a décrit toute une série d'autres protéines tout aussi indispensables. Si on les retire aux animaux de laboratoire, ces animaux sont stériles ou quasi stériles. Et donc, que faire de toutes ces protéines? On ne savait pas comment elles peuvent interagir entre elles. Donc, il y avait deux possibilités. Soit elles agissent de façon séquentielle, l'une après l'autre, soit ensemble. Or, pour le savoir, il a fallu faire appel à quelque chose de puissant, qui est une intelligence artificielle qu'on appelle AlphaFold. C'est un logiciel très puissant de la société DeepMind, qui maintenant appartient à Google, et qui permet, sur la base de la seule séquence chimique d'acides aminés qui forment une protéine, de savoir quelle est sa forme finale, de prédire la forme finale. Et donc, les deux équipes ont une approche très similaire. Elles ont pris en considération toutes les protéines connues pour jouer un rôle dans cette fécondation, sans lesquelles ça ne marche pas. Et elles ont demandé à AlphaFold de décrire leur forme et comment elles peuvent interagir entre elles. La nouvelle version d'AlphaFold peut décrire les combinaisons de protéines, les complexes. Et donc voilà, elles ont découvert le mécanisme central, qui est une sorte de joli casse-tête mécanique, comme ces pièces qu'on emboîte.
Vous savez. Un peu comme des Lego.
Oui, des briques de Lego, un pont, quelque chose, une sorte de clé qui se forme côté spermatozoïde par trois protéines qui, à sa surface, doivent soit s'assembler. Sans cet assemblage, on ne peut pas relier sur la face opposée la protéine de l'ovule qui s'appelle Juno. Donc, on a voilà, cet emboîtement.
Quatre protéines pour que spermatozoïdes et ovules s'emboîtent comme il faut et donnent naissance à la vie.
Et elles se collent. Simplement, ce qui est joli, c'est que ça ne s'arrête pas là. On ne sait pas comment l'étape d'après se déroule. C'est-à-dire qu'au moment où les membranes sont collées l'une à l'autre, presque collées, il reste quand même des molécules d'eau entre elles qui les séparent. Et donc, il faut qu'on comprenne comment les deux membranes sont finalement amenées à se coller complètement, chassant ces molécules d'eau.
Et à fusionner.
Et là, les chercheurs n'ont aucune idée de à quoi pourrait ressembler ce fameux fusogène, cette protéine qui les oblige à se coller entre elles. Mais ce qu'on sait, c'est que ce mécanisme est le même chez le poisson, chez la souris, chez l'humain. C'est quasiment les mêmes protéines à très peu de variables près. Donc on sait que c'est là la clé du miracle de la vie.
La clé du miracle de la vie à suivre. Hein. On n'a pas encore tout à fait percé ce miracle de la vie. Article « Tout ce qu'il y a de plus scientifique » paru sous votre plume, Fiorenza Grazzi, dans ce numéro de janvier d'Epsilon, dont vous nous avez amené aussi, on vous en remercie, quelques exemplaires pour vous les offrir. Je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question « Comment la science infusée se diffuse jusque chez vous ?» On s'arrête maintenant sur la une et le dossier de « la science consacrée aux chromosomes X et Y. Pourquoi femmes et hommes sont inégaux devant la maladie? Piste de réponse d'Edith Hurd, la pionnière de l'épigénétique, médaille d'or du CNRS cette année, que vous avez interviewé, François Lassagne. On y vient juste après avoir écouté un autre X et un autre Y, version Coldplay sur RFI. Trying hard to speak and fighting with
with my weak hand, driven to distraction. So part of the plan, when something is broken and you try to fix it, trying to repair it any way you can.
Play sur RFI X and Y, les chromosomes X et Y qui sont à la une de votre magazine Pour la Science, François Lassagne. Pourquoi femmes et hommes sont inégaux face à la maladie? Vous avez demandé à la spécialiste mondiale, la professeure Edith Hurd, qui est médaille d'or du CNRS 2024, de l'expliquer dans ce numéro de Pour la Science.
Absolument. Et alors, une toute petite précision, Caroline, nous avait dit que nous l'avions interviewé. Alors c'est vrai, c'était au Collège de France juste avant Noël pour une interview en public. Mais là, elle a accepté d'écrire un long article avec deux co-auteurs qui sont Agnès Eloda et James Cleland de l'EMBL. Et en fait, je le précise parce que cet article est très, très, très fouillé. Je vais essayer d'en restituer juste les idées essentielles. Oui, oui. Et il y en a une avec laquelle commencent les auteurs. On est en 2025, mais ils nous ramènent très loin dans le passé. Ils font parler Platon, qui dans le Timée écrivait, en parlant de l'utérus féminin, il écrivait « Cet organe s'impatiente, se met à errer partout dans le corps, obstrue les orifices, provoque des maladies de toutes sortes. » Ça, c'était les idées des Grecs à propos de l'utérus, et ils pensaient que l'utérus expliquait plein de maladies. Alors vous me direz, c'est il y a très longtemps. Pourquoi ces auteurs, qui sont les meilleurs au monde sur l'épigénétique et les différences entre hommes et femmes vis-à-vis des maladies, pourquoi ils en parlent? Parce qu'en fait, ça sert à nous rappeler que les études biomédicales, encore aujourd'hui, sont pour l'essentiel concentrées sur les seuls hommes, pour une raison générique, qui est de considérer que les cycles hormonaux des femmes entraînent trop de variabilité dans les résultats et que donc il est plus simple et plus sûr de faire des études seulement sur les hommes. Sauf que ça pose un gros problème parce que les femmes ne sont pas des mini-hommes. En pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire des études sur les femmes? On ajuste pour la taille et pour le poids et on dit que ça va marcher. Non, ça ne marche pas bien du tout. La preuve, c'est que deux fois plus de femmes ont des réactions indésirables aux médicaments que les hommes. C'est bien qu'il y a un problème. Alors, il y a un problème. Heureusement, ça change. Ça change aux États-Unis. Maintenant, une étude sur deux inclut des femmes. En Europe, des directives européennes vont dans ce sens pour obliger à ce que les études biomédicales soient conduites au moins à égale partie sur les femmes et sur les hommes.
Mais on a au moins pris conscience de ce biais.
On a pris conscience et il était temps parce que, en fait, d'abord, ce que dit l'article de manière très, très nette, c'est que la plupart des organes diffèrent selon le sexe au niveau de leur expression des gènes. C'est-à-dire que si je prends le foie d'un homme ou d'une femme, la manière dont les gènes s'expriment chez l'un et chez l'autre va être très différente. Et par conséquent, leur fonctionnement, leur métabolisme va être différent vis-à-vis des maladies, leur sensibilité aux maladies. Je vais donner quelques exemples pour fixer quelques idées. Si je prends les cancers, ça c'est des choses qui sont établies en épidémiologie, donc on suit les maladies selon des cohortes entre hommes et femmes. On voit que les hommes ont un risque 19% supérieur que les femmes de contracter un cancer et sont 43% plus par 43% de plus à risque d'en mourir. Si on regarde les maladies auto-immunes, on sait que 4 patientes sur 5 sont des femmes. Mm-hmm. Si on regarde les troubles anxieux et la dépression, il y a 2 fois plus de troubles anxieux et de dépression chez les femmes. L'obésité touche davantage les femmes. Alzheimer, les femmes, 2/3 des patients. Je me tourne du côté des hommes cette fois. Les AVC, c'est plus fréquent chez les hommes. Parkinson, le risque multiplié par 2 chez les hommes, toujours par rapport aux femmes.
La oui, pneumonie, donc vraiment, il n'y a pas d'égalité là-dedans.
Je peux faire une litanie ouais. comme ça de maladies. Alors ça, on le sait, certains de ces chiffres sont établis depuis 15, 20, 30 ans pour certains. D'autres sont beaucoup plus récents. Ce qu'on commence à creuser de manière plus précise, c'est pourquoi. Comment on explique ces différences-là ? Il y a essentiellement 3 modalités qui font qu'entre hommes et femmes, on n'a pas le même risque face aux maladies. D'abord, c'est l'environnement. Oui, les femmes ou les hommes mangent différemment, fument plus ou moins. Ça peut entraîner des réponses vaccinales différentes selon le sexe, par exemple. Chez les rats, si on isole des femelles rats et qu'on regarde comment elles vont après, qu'on fait la même chose chez des mâles rats, on se rend compte que les conséquences du stress d'avoir été isolé sont beaucoup plus importantes chez les femelles. Reste à savoir pourquoi. Alors, on va un cran plus loin. On se dit, ça peut être les hormones. Alors oui, il est établi par des expériences chez les animaux et puis des observations chez l'humain que les hormones sexuelles, celles qui sont produites par les ovaires chez les femmes, par les testicules chez les hommes, ça provoque pas mal de différences. Par exemple, chez les femmes préménopausées, les œstrogènes, ça les protège relativement nettement par rapport aux hommes contre le développement de l'obésité. Ça les protège aussi contre les maladies cardiovasculaires. À l'inverse, chez les hommes, les androgènes, ça a un effet protecteur contre les maladies auto-immunes. Donc on sait que les hormones ont un rôle très important. La grande nouveauté des dernières années, et ce sont les travaux en particulier d'éditeurs et son équipe qui ont fait progresser ce champ-là, c'est de voir que les chromosomes X et Y, donc on a 23 paires de chromosomes, tous les humains, et il y a une paire de chromosomes sexuels, un X et un Y, qui sont très différents. 2X en général chez les femmes, un X et un Y en général chez les hommes. Il y a des cas intermédiaires, mais bon, dans la majorité de la population, c'est comme ça que ça se dessine. Et le Y est si différent du X que ça a des conséquences très importantes vis-à-vis des maladies. Pour une raison assez simple, en fait, c'est que le X est très grand. Il y a presque 1 millier de gènes sur le X et que le Y est beaucoup plus petit. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si chez les femmes, les gènes du X étaient tous exprimés, ceux des 2X, eh bien en fait, ça ne marcherait pas. D'ailleurs, quand c'est le cas, ça provoque des avortements, le fœtus ne va pas au bout, ça ne marche pas. Donc la nature a trouvé une solution, c'est que les gènes d'un seul des 2 chromosomes X sont exprimés chez les femmes. Ça s'appelle l'inactivation du X, c'est-à-dire que les gènes d'un des 2X sont éteints par épigénétique, par des petites molécules qui viennent se coller sur le brin d'ADN. Et ce qui est génial, c'est que du coup, les femmes, selon les cellules, eh bien, ce ne sont pas toujours les mêmes gènes sur un X ou sur l'autre qui sont éteints. Et ce qui est encore plus génial, c'est que certains de ces gènes qui devraient être éteints, parfois ne le sont pas. On appelle ça l'échappement à l'inactivation du X. Donc c'est un terme un peu compliqué. Mais il y a certains gènes, du coup, qui vont quand même être activés. Et quoi ? Eh bien, ça permet d'expliquer pas mal de différences qu'on observe en termes de maladie, soit de fréquence, soit d'intensité, soit de conséquences de la maladie une fois qu'elle est contractée, entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a des maladies qui sont très liées au fait qu'un gène se soit échappé ou ne se soit pas échappé, soit présent sur le X ou sur le Y ou sur les deux et de manière différente entre les deux. Je donne un seul exemple. Dans le cas du lupus, qui touche majoritairement les femmes, on sait que c'est le gène TLR7, qui est un gène du X, qui est responsable du lupus. Et c'est ce gène-là sur le X qui fait que les femmes sont beaucoup plus touchées. Pour donner l'importance de cette compréhension, on a 867 gènes qui codent des protéines sur le X et dont les mutations, juste sur le X, sont responsables de 533 maladies. Autrement dit, il y a un champ immense de progrès pour une médecine qui soit vraiment différenciée entre hommes et femmes.
Entre hommes et femmes, oui, c'est un champ de recherche considérable. Merci en tout cas de nous l'avoir présenté de manière aussi concise, François. À lire en tout cas en entier dans Pour la Science, le dossier La Une, consacré à cette question chromosome X et Y, numéro de Pour la Science de ce mois de janvier, dont vous nous avez apporté aussi, François Lassagne, quelques exemplaires pour vous les faire gagner. Chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et curieux, autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque chez vous, avant de nous projeter sur Uranus, carrément, en fin d'émission, avant d'ouvrir la tête dans les étoiles, on commence par garder les pieds sur Terre pour ouvrir le grand dossier de la recherche sur les sols, écosystème vital, fondamental. Ce sera assuré avec vous, Philippe Pajot, on passe à un autre Philippe Pajot, juste après s'être arrêté en musique pour louer Mother Earth, la Terre Mère, depuis Kingston, Jamaïque, avec Tijan Bennett sur RFI.
Hey. And the struggles where we bear, I know. Man, only firm, and we never shed a tear. Regular, them style we, and we go on like we not here. But we still have blaze the fire, persecution we not fear. So go tell transgender fi not come round here. Seen so many youths fall by the wayside. Them can't take a taxi, no, them might disappear. Cause time gets so drastic. To all them desperate, no matter, dig up the casket. Can't pay with bills, no matter how we try. Nuff I live on the mouth, just to get by. All them years, them slavery, and we still not get paid. Only Jack can save me from this mental shit.
Mother Earth, célébré par le Rastafarian Tijan sur RFI de circonstances pour ouvrir le formidable dossier sur les sols de la recherche avec vous, Philippe Pajot. Les sols, écosystèmes fondamentaux pour toute la vie sur notre planète, sont menacés par l'artificialisation, la désertification. Au fond, c'est comment protéger, soigner, réparer, mieux connaître nos sols. C'est une question essentielle aujourd'hui.
Essentielle, oui. Alors, j'ai intitulé mon édito « La peau vivante de notre planète », mais on peut dire « La peau vivante et fragile de notre planète ». Et en fait, on a perdu le contact avec le sol. En fait, dans nos milieux urbains, le sol...
C'est du béton, c'est la moquette,
c'est autre chose. Et le sol, c'est évidemment ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, on a perdu ce contact. Et alors, c'est quoi justement ces sols qu'on ne connaît plus? Alors, ça dépend de la nature, évidemment, des roches qui sont en dessous, parce que ça émane en fait de l'érosion des roches sur lesquelles les roches de la Terre. Et donc, il y a énormément de structures de sol différents, d'épaisseurs de sol différents. Et pour donner un exemple, sur le territoire français, les sols, c'est entre 50 et 1 mètre de profondeur pour 2/3 du territoire français. Donc, c'est très fin.
C'est une couche fine.
C'est une couche fine. Avec des variations évidemment en fonction de la nature, mais c'est pas que de minéral, justement des minéraux issus de cette érosion des roches, c'est aussi un réservoir énorme de matière organique
pour donner. C'est du vivant.
C'est énormément vivant. C'est pas vivant, mais il y a beaucoup de vivant dedans. Alors, on pourrait dire presque vivant, mais c'est un peu exagéré. Pour donner un exemple, 1 gramme de sol, ça contient 1 million d'espèces de bactéries et 100 000 espèces de champignons. Donc c'est vraiment énorme. Alors ça, c'est pour tout ce qui est microscopique, mais il y a évidemment énormément d'animaux à l'intérieur, de toute taille, dont des bactéries, je l'ai dit, mais également de la microfaune, jusqu'à des vers, jusqu'à des musaraignes, ça va jusqu'aux vertébrés. Hein, ça peut être extrêmement...
D'où l'importance de ces sols pour le reste de la vie sur Terre, enfin, et qu'on a un peu oublié, qui sont aujourd'hui menacés par quoi? Par de la pollution? L'artificialisation?
Menacés par énormément de choses. L'artificialisation, l'activité humaine plus généralement. On peut citer l'érosion par l'eau et le vent, la désertification en Afrique qui est évidemment extrêmement importante, le changement climatique. Pour vous donner une idée, 65% des terres arables africaines sont menacées de dégradation. Donc c'est vraiment énorme.
C'est un énorme enjeu. Et puis il y a eu pollution, vous citez aussi dans ce dossier le scandale du chlordécone notamment.
Le chlordécone évidemment aux Antilles, qui continue aujourd'hui et qui est difficile justement, ça reste difficile aujourd'hui d'évaluer effectivement combien de chlordécone, à quel point il se dégrade, combien de temps il va rester.
C'est ça. Parce qu'il y a de la dépollution, mais ils avaient aussi des pistes, vous citez aussi, il y a des choses à faire pour dépolluer justement évidemment, les sols, quand on se rend compte de leur importance vitale.
Que faire, effectivement, et donc tous les chercheurs et les chercheuses qui interviennent dans ce dossier essaient de donner des solutions, je ne dirais pas des solutions, mais évidemment des pistes pour lutter contre ces périls. Alors, on pourrait citer en Afrique, évidemment, ce projet de grande muraille verte qui est bien connu au Sahel, là,
qui avance péniblement.
Qui avance péniblement. Donc voilà, c'est un projet de grande
ampleur. Qui fonctionne au Sénégal, mais qui ne fonctionne pas tellement plus loin.
Exactement, de 8000 km d'arbres qui vont de Dakar à Djibouti, qu'on essaie de faire. Mais il y a également des choses plus prosaïques, des pratiques d'agroforesterie, par exemple, qui est une sorte d'alternative durable à l'agriculture intensive. Elle est encore marginale en Europe. En Europe, ça représente 8 à 9% des surfaces agricoles, alors qu'en Afrique, justement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé. Ça, on pourrait prendre exemple sur nos amis africains, notamment dans les régions tropicales ou semi-arides. Il y a des régions où la majorité en fait, des terres agricoles sont
en agroforesterie, l'importance des arbres aussi. Que vous soulignez d'ailleurs dans ce dossier, dossier très complet voilà. Sur les sols, écosystèmes vital et sur lesquels on continue de faire des recherches.
Voilà, et là par exemple, il y a aussi des exemples de dépollution très, très pratiques. Comment dépolluer les sols pollués, on citait évidemment les pesticides, mais ça peut être pollué par des métaux, par énormément de produits toxiques. Il y a ces polluants éternels aujourd'hui qui posent problème. Donc il y a des chercheurs du BRGM qui ont des solutions physico-chimiques, on pourrait dire, mais des solutions aussi naturelles. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en appelle la bioremédiation. En fait, les plantes elles-mêmes, le sol, pour sauver le sol en quelque sorte. Tout ce travail dans le sol pour sauver le sol. Les plantes qui dépolluent, ça c'est quelque chose qui commence à se développer énormément.
Donc à suivre dans ce dossier très complet sur les sols, écosystèmes vital, c'est-à-dire sans modération, dans ce numéro de janvier du trimestriel La Recherche, dont vous nous avez amené, Philippe Pageot, plusieurs exemplaires. Ils sont pour vous, vous le savez, chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» avec tout de suite une nouvelle question à laquelle Benoît Tonson, dans la revue en ligne The Conversation, va répondre. Comment l'eau est-elle arrivée sur Terre? On s'interroge ensemble autour d'une toute nouvelle théorie extraterrestre. Tiens donc, juste après s'être mise en bouche avec le goût de l'eau, les Oufris Maracas sur RFI.
Les hivers, mais les hommes, leur argent, ont tout foutu en l'air. Elle pense au bout de l'eau quand elle coulait à
Les Oufris Maracas sur RFI. Mais au fait, Depuis quand y a-t-il de l'eau sur Terre et surtout comment est-elle arrivée sur notre planète? Question réouverte par une nouvelle théorie que vous nous faites partager, Benoît Tonson, dans la revue en ligne de Conversation. Parce qu'on ne le sait pas toujours, mais la Terre n'a pas toujours été bleue comme une orange, ou pas comme une orange, mais elle n'a pas toujours été bleue, Benoît.
Oui, parce que je pense que si on demande à n'importe quel enfant ou adulte, hein, d'ailleurs, de dessiner notre planète, il va forcément se servir de son feutre bleu, hein, pour dessiner, pour colorer tous les océans. On a évidemment tous cette image en tête. Pourtant, au tout début de son histoire, la Terre était trop chaude pour contenir de l'eau. Donc, cette eau qui recouvre aujourd'hui les trois quarts de notre planète sera apparue environ 5 millions d'années après la formation du Soleil et doit donc avoir une origine extraterrestre.
Extraterrestre, c'est-à-dire ?
Bon, je ne parle pas de petits bonhommes verts, hein, qui seraient venus déverser de l'eau en grande quantité avec leur soucoupe spatiale, hein, mais au sens vraiment littéral, hein, je veux dire que cette eau serait venue de l'espace. Alors, dans les années 90, les astrophysiciens ont d'abord pensé aux comètes glacées, puis de nouvelles analyses ont plutôt pointé vers les astéroïdes, donc des objets en majorité situés entre Mars et Jupiter. Donc les astéroïdes chargés en eau seraient venus s'écraser sur notre toute jeune planète.
Vous dites « serait », vous utilisez le conditionnel, c'est donc une théorie, une hypothèse.
Oui, tout à fait, hein, mais ce qui conforte cette théorie, c'est la composition de notre eau, donc l'eau sur la Terre, qui est assez similaire à celle des astéroïdes. Mais pour expliquer cet apport en eau absolument massif, hein, parce qu'il faut imaginer les quantités, il faut imaginer un très très grand nombre d'impacts, puisque je parle ici de quantité d'eau présente aujourd'hui. Donc, il faut s'imaginer l'ensemble des océans et toute l'eau douce. Donc, on a des modèles mathématiques qui peuvent l'expliquer, mais il faut imaginer un genre de gros billard gravitationnel et une histoire, disons, compliquée du système solaire.
Il y aura une autre explication, comment dire, un peu plus simple ?
Alors, plus simple, je ne sais pas, mais plus calme en tout cas. Et c'est Quentin Kral de l'Observatoire de Paris qui l'a proposé récemment à la communauté scientifique et qui nous l'a expliqué sur notre site. Donc cette nouvelle théorie, dans cette nouvelle théorie, on s'intéresse toujours bien aux astéroïdes, mais on n'a plus besoin d'impact. Donc je rappelle qu'au début du système solaire, donc on a notre Soleil au centre, hein, évidemment, et des planètes sèches, dont la Terre, et un peu plus loin, des astéroïdes contenant de la glace d'eau. Donc quelques millions d'années plus tard, le Soleil connaît une phase de luminosité intense qui aurait réchauffé la ceinture d'astéroïdes. La glace serait alors passée de l'état solide à l'état gazeux, formant une sorte d'immense nuage d'eau. Et ce nuage se serait ensuite étalé naturellement en direction du Soleil et donc sur le chemin aurait rencontré des planètes, dont la nôtre.
Mais si je vous suis bien, Benoît, ce nuage, il a aussi arrosé Mars. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau liquide sur les autres planètes ?
Oui, bah, tout ce qui se trouve entre la ceinture d'astéroïdes et le Soleil a bien été arrosé, on peut le dire. Mais la Terre est un cas particulier car elle a pu conserver son eau grâce à son atmosphère, donc qui a permis la mise en place d'un cycle de l'eau, hein, qu'on connaît toujours aujourd'hui, hein, évaporation, condensation, pluie, neige, etc. Donc qui fait que la quantité d'eau globale n'a pas évolué et que l'eau qu'on est en train de boire aujourd'hui est finalement vieille de plusieurs milliards d'années.
Mais toujours bonne. Hein. Donc cette nouvelle théorie que vous nous faites partager, elle semble prometteuse. Est-ce qu'il est possible de la prouver ?
Oui, bah sur le papier, et selon l'auteur de la théorie, hein, tout semble bien fonctionner avec cette idée, au niveau des maths en tout cas. Mais bon, on ne peut pas se contenter de jolis calculs et de belles idées. Hein. Faut toujours confronter l'hypothèse aux observations. Et bon, pour notre système solaire, hein, c'est trop tard. Impossible de remonter dans le temps. On ne pourra jamais observer ce fameux nuage d'eau. Mais peut-être que grâce à certains télescopes, et notamment le radiotélescope ALMA au Chili, il pourrait être possible d'observer ce même phénomène, mais dans d'autres systèmes solaires. Et d'ailleurs, l'équipe de Quentin Kral a d'ailleurs pu obtenir du temps d'observation. Donc, affaire à suivre.
À suivre dans la revue en ligne The Conversation. Benoît Tonson, merci. On vous reparlera d'ailleurs sur notre antenne très bientôt du télescope ALMA au Chili et de ses données et découvertes astronomiques, mais pour l'heure. Et avant d'embarquer pour Uranus, carrément, avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, on commence par un autre genre de voyage astral et musical dans notre playlist du mois sur RFI avec un duo inénarrable, Walter Astral et leur morceau Zénith.
Trésor, 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 idée. le ciel, toi tu gravites. Oh, dessus du monde, tu m'évites. Oh, et tu passes le zénith. Oh, quoi d'un virage, tu t'éclipses. Oh, dans le ciel, toi tu gravites.
Zénith ou presque dans la playlist du mois sur RFI signée du duo Walter Astral. Tout à fait ce qu'il nous faut, cher Philippe Hénarejos, pour embarquer vers Uranus, carrément, dans ciel et espace, vous nous entraînez, comment dire, dans la prochaine folle mission hypothétique, ou peut-être de la NASA, vers Uranus, Uranus orbiteur. Et Uranus, c'est tout de même la septième avant-dernière planète du système solaire, je ne me trompe pas, à 2,8 milliards de kilomètres de
oui,
la Terre. C'est
loin, ben, hein. les astronomes et plus précisément les planétologues nous disent qu'il faut reprendre le sac à dos d'explorateur et de repartir voir les planètes. Uranus a été visité par une sonde spatiale. C'était en 1986, c'était la sonde Voyager 2.
Mais très longtemps, hein,
mais
c'est ça.
6 heures.
Ah oui, 6 heures. Ouais.
6 heures. Elle c'est est passée peu. Comme plus vite qu'une balle de fusil. Hein. Mm-hmm. 6 heures, quelques clichés. On voit qu'un seul hémisphère. En plus, c'était à l'époque où le pôle d'Uranus tournait vers le Soleil. Donc, on voit qu'un seul hémisphère. Mmh, on a découvert les anneaux un peu avant. Enfin, on a pu les observer. Les satellites, c'est pareil. On n'en voit qu'à la moitié. Et donc, 6 heures de données à une époque où c'était... c'était pas les sondes d'aujourd'hui, quand même, hein, avec des données argentiques, etc.
Il faut y retourner, mais...
Voilà, on a les astrophysiciens, par exemple, Robin Canup, qui est une astrophysicienne de Boulder, aux États-Unis, au Colorado, qui dit qu'il est urgent de lancer une sonde vers Uranus. Alors, pourquoi? On se dit parce que, en fait, après le passage au Voyager, il faut être honnête. C'était décevant. On avait vu Saturne, on avait vu Jupiter avec des nuages et des choses fantastiques. Ouais. Uranus, c'était une boule de billard toute bleue. Vous voyez pas le chiffre écrit dessus, hein. Mais elle était toute bleue. Elle était uniforme.
Avec des anneaux autour.
Ouais, avec des anneaux autour. Et il faut dire qu'on était déçus. Et donc, cette image a un peu
pénalisé
cette planète. Mmh. Mais les astrophysiciens nous disent il faut qu'on étudie cette planète et aussi Neptune. Mais enfin, il faut en choisir une parce que les deux sont loin. Mmh. Parce que quand on regarde les systèmes d'exoplanètes, les planètes de type Uranus sont les plus courantes aujourd'hui.
Ah, en dehors de notre Soleil, donc dans les systèmes planétaires extrasolaires, il y a beaucoup de Uranus, entre guillemets.
Voilà. Et en plus, Uranus, c'est ce qu'on appelle une géante de glace. Alors, bien que ce soit une géante gazeuse, une géante de glace, c'est parce qu'on suppose qu'elle est faite de grosses particules de glacée au départ. Et on revient sur l'histoire de l'eau.
Ouais.
L'histoire de l'eau dans le système solaire, elle est incomplète. Donc, aller voir au-delà, à cette distance très loin du Soleil, ce qui s'est passé, c'est très important pour comprendre l'ensemble de l'histoire du système solaire. Il y a plusieurs des astrophysiciens.
Et des planètes océans, c'est ça? Enfin, ces planètes océan, qui contiendraient un océan
absolument.
Et
il y a plusieurs astrophysiciens qui nous disent allez voir Uranus avec une sonde qui se satelliserait autour et qui aurait peut-être même un module de rentrée dans l'atmosphère de la planète, comme naguère ça avait été fait sur Jupiter. Ça nous permettrait tout simplement de révolutionner l'histoire du système solaire. Rien de moins.
Oui, est-ce que c'est possible?
C'est possible. La NASA.
C'est quand cette mission?
Vous savez, la NASA régulièrement fait ce qu'on appelle des décadal surveys, c'est-à-dire des revues.
Plans.
où on dit ben, qu'est-ce qui est scientifiquement le plus important de faire. Et là, c'est Uranus qui arrive en priorité. Mm-hmm. Donc ça ne veut pas dire que ça va être réalisé et financé, mais c'est quand même une bonne indication, parce qu'en général, la NASA suit les scientifiques dans ce décalage de surveillance. Le problème, c'est que c'est une mission à 4 milliards de dollars et que donc la NASA et les scientifiques américains aimeraient bien que les Européens soient dedans. Mm-hmm. Et là, c'est là que le bât blesse, parce que pour l'instant, il faut bien le dire, du côté de l'Agence spatiale européenne, c'est le silence radio. Total.
Okay. C'est trop
total.
Loin, c'est trop cher.
Ça serait, on ne sait pas, parce qu'en fait, ça serait une mission qui partirait entre 2031 et 2037.
Oui, pour arriver...
Pour arriver aux alentours de 2044-45, parce que c'est en fonction de la configuration des planètes, etc. Donc, il faut 10 ans de développement. Donc, il faut décider maintenant. Toute la seule réponse qu'il y a eu du côté de l'ESA, c'est on n'envisage pas de collaboration avec la NASA avant 2037. C'est trop tard. Donc, les scientifiques s'organisent. Ils sont en train d'essayer de voir s'ils ne peuvent pas faire un consortium entre différents labos et peut-être industriels européens qui ne seraient pas l'ESA, mais qui apporteraient cette contribution
pour pouvoir soutenir cette
mission très ambitieuse. Voilà. Et avoir surtout un module de rentrée dans la planète Uranus qui donnerait des données essentielles sur sa composition et qui nous permettrait de connaître un peu plus son origine. Parce qu'il y a tout un jeu de billard, je ne vais pas rentrer, on n'a pas le temps. Mais peut-être qu'Uranus, à un moment donné, a inversé sa place avec Neptune. Il y a eu tout un jeu de billard peut-être qui a eu lieu au début du système solaire. Connaître cette planète-là, et Neptune aussi, ça serait vraiment lever un voile sur toute la moitié de l'histoire du système solaire. Ça nous paraît loin, froid et obscur, mais ça contient des informations indispensables pour comprendre notre monde.
On voit où votre cœur balance vers Uranus, cher Philippe Hénarejos. Alors, pourquoi pas explorer Uranus, en tout cas dossier à lire pour rêver, mais on l'a compris, pas que, dans Ciel et Espace, qui sortira en kiosque le 15 janvier prochain, et dont vous nous avez amené en avant-première, merci cher Philippe, quelques exemplaires. Je vous rappelle, bien sûr, chers amis auditrices et auditeurs, que vous pouvez remporter tous les magazines dont nous avons parlé, Ciel et Espace, Epsilon, La Recherche, Pour la Science, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs et aux amatrices, et rendez-vous le mois prochain avec vous tous. Je vous dis un grand merci aux deux Philippe, à Benoît, à Fiorenza et à François.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, même zone, même heure, en compagnie de scientifiques en résistance et même en rébellion. Autour de la question, pourquoi faut-il sortir des labos pour défendre le vivant, à suivre demain, chers amis, auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.